Et on revient dans notre étude du livre de Shemot. On est toujours dans la paracha de Kitissa, chapitre Lamed, chapitre 30, verset Kafbet, verset 22. C'est-à-dire, Vaidaber Hashem El Moshe, les morts. Veata, kach lecha besamim rosh mor deror. חמש מאות וכנמן, כנמון, בוסם, מחציתו 50 ו-200, וכנה בוסם 50 ו-200, וכידה 500 בשקל הקודש, ושמן זית הין. Et donc, tu vas faire quoi avec tout ça? Regarde, psamim, c'est pas des parfums, hein? Non, c'est des herbes aromatiques. D'accord. Ok, la preuve, c'est qu'il t'a dit, c'est quoi les psamim en question? C'est mort d'error et kinamon. Ce sont des plantes aromatiques. Quoi. Le kinamon, c'est la cannelle. Donc. Et avec tout ça, tu vas faire quoi? Ve'asita oto shemen mishrat kodesh. Rokach, mirkachat ma'ase rokeach, shemen mishrat kodesh, ye. Donc tout ça, tu vas en faire une huile, des huiles essentielles, on dit aujourd'hui. Une huile essentielle. Et ça va servir à quoi, cette huile-là? Ou ma'shach tabo et orel moed, ve'et aaron ha'edut. ואת השולחן ואת כל כלה ואת המנורה ואת כליה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כלה ואת הכיור ואת קנו וקידשת אותם והיו קודש קדשים כל הנוגע בהם יקדש. Donc le but de cette huile là c'est de oindre tous les ustensiles et le mishkan lui-même. OK?
Comme on oint une personne, on va oindre les choses.
Oui. C'est-à-dire mettre de l'huile un peu dessus.
Et c'est oui. Le fait de oindre avec de l'huile, c'est un hydrolyte.
Eh bien, l'huile a plusieurs propriétés. D'abord, elle ne se mélange pas. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu mets ton huile sur, avec quelque chose, ça montre la différence. De la même façon, ça va au-dessus. Alors, au-dessus, ça, tu vas me dire, ça dépend de la densité du liquide. Oui. Mais on parle généralement de l'eau. Et donc, effectivement, l'huile va montrer une dimension de supériorité. Donc de la même façon, quand on va mettre de l'huile sur le roi, sur le Kohen Gadol, c'est parce qu'il a cette dimension de supériorité par rapport au reste du peuple. Et bien il en va de même pour les choses du Kodesh, du Mishkan. D'accord ?
Donc les choses, elles perdent leur valeur de choses.
Elles ne sont plus des choses.
Elles sont
des clés Kodesh. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour faire d'un ustensile un ustensile du Mishkan, il y a trois étapes. La première étape, c'est que lorsqu'on l'a confectionné, on devait l'avoir confectionné dans l'objectif qu'il serve au Mishkan ou au Mikdash. Ensuite, on le oint et ensuite, on est Mekadesh Oto, on l'intronise, si tu veux, dans la Avoda. Aujourd'hui, le Machon HaMikdash, qui a reconstitué les ustensiles du Beth HaMikdash, ils n'ont fait que la première étape. C'est-à-dire que tous les ustensiles ont été faits pour servir au Beth HaMikdash. Les deux dernières étapes, ils n'ont pas encore fait. Bah, quand on reconstruira le Beth Amidash, ça n'a rien pour l'instant de les Kadesh au Tam si on n'a nulle part où les mettre. D'accord ?
Yaakov, il avait aussi des fioles d'huile, il avait loin à un moment donné, non ?
C'est pas que Yaakov, déjà Abraham, c'est-à-dire que c'est un minac qui est très ancien.
C'est ça.
Naron ?
Abraham aussi, il avait.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis, c'est un minac très ancien. Maintenant, cette chemin-là, ces huiles essentielles particulières, eh bien, Moshe les a faites et puis personne d'autre ne les a faites. C'est-à-dire que ça suffit pour tout le reste. C'est également pour le premier Beth Amikdash. On va utiliser le Shemen de Moshe.
Oui.
Ah bon. Ok. Ouais. Et est-ce qu'on va en refaire? Kanire Shelo. Kanire qu'on va retrouver, je sais pas, l'outre à huile de Moshe, quand il faudra le retrouver, et on pourra...
Ça oui, donc pour les deux...
Pour les deux Beth Amikdash.
Et le Tabernacle dans le désert.
Et le Mishkan, évidemment. Maintenant, Bezrat Hashem, on l'utilisera également pour faire le troisième Beth Amikdash. Alors, si on ne retrouve pas, c'est pas grave, on fera une autre huile. C'est ça ? Vet Aaron, Vet Banav, Timshach, Vekidashta Otam, Lechaen Li. Donc, également les Kohanim, on leur fait ça. Vel Bene Israël, Tedaber Lemor, Shemen Mishrat Kodesh, Yeze Li, Le Dorotech. Donc, c'est là qu'on voit qu'on n'en fait pas d'autres. Zé Li, Le Dorotech. Al Besar Adam, Lo Yissach. ובבת קונתו לא תעשו כמוהו. קודש הוא קודש יהיה לכם. On le met pas stam sur des gens et on n'a pas le droit de refaire la même recette pour le vendre dans le commerce. C'est uniquement Shemen Mishrat Kodesh. איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו. Quelqu'un qui, c'est-à-dire que quelqu'un qui ferait ça, un pharmacien, un botaniste qui ferait ça, et qui le mettrait sur un étranger qui n'est pas à Cohen, karet.
Mais quand on parle de Zar, c'est pas des Juifs ou
c'est des Juifs? Zar, là en l'occurrence, c'est pas Cohen.
C'est pas Cohen, ok.
Là, si on va dans le contexte, quoi.
D'accord.
D'accord. Donc ça veut dire karet. Quelqu'un qui ferait ça, chayav karet. Et l'opachout.
Donc un Cohen, il n'est pas, je veux dire une bêtise, mais tant pis. Il n'est pas considéré comme un Adam,
non? Non, pourquoi?
Parce qu'il dit sur une chair d'homme.
Oui, mais tu vois le contexte. Le contexte du verset, il te dit Al-Bassar Adam lo yisar stam. Les gens, ils ont l'habitude de mettre sur eux des huiles. C'est pas nouveau, c'est pas de maintenant. Donc, on vient de te donner la recette d'une huile essentielle extraordinaire. Oui. On te dit, sache que ça, c'est pas à mettre sur le corps de stam. Ah, c'est quand on est simplement pour oindre les Kohanim. D'accord. Ok. Vayomer Hashem el Moshe, kach lecha samim, nataf. הוא שחלד וחלבנה שמים לבונת זקה בד בבד יה ועשית אותה כתורת רוקח מעשה רוקח ממולח טהור קודש ושחקת ממנה הדקם ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יוועד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. De quoi ici? De la ketoret. Ce sont les encens. On a déjà évoqué les encens à la fin de la paracha de Tetzaveh, mais ici, c'est là qu'ils prennent leur place dans le Mishkan. D'accord ?
La recette exacte.
Non seulement la recette exacte, et en plus, quand est-ce qu'on doit les utiliser ? Vaktoret asher ta'ase bematkunta lo ta'asu lachem kodesh tiye lecha la'ashem. Donc là, pareil, tu n'as pas le droit de faire cet encens-là à la maison. Tu vois, au Machon HaMikdash, tu peux acheter les 11 samémanim de la Ktoret. Mais ça, il n'y a pas de problème d'avoir les 11. La question, c'est dans quelle proportion, qu'est-ce qu'on met avant quoi. Moi, je ne connais pas le secret de la fabrication de la Ktoret. Il y avait une famille de Kohanim qui connaissait ça, c'est son truc. Et ça s'est un peu perdu avec le temps. C'est-à-dire, donc, la Ktoret, elle sert à quoi?
Pourquoi ils les vendent alors?
Non, c'est un. Pourquoi ils les vendent? C'est les samémanim de la Ktoret. Ce n'est pas la Ktoret. C'est les différentes épices qui composent la ketoret. C'est ça ? C'est pas la première fois qu'on vend des trucs pour touristes. Hein ?
Ouais, mais bon, c'est un truc sérieux, ça.
Bah, c'est sérieux, c'est BMF, les 11 espèces de la ketoret. C'est pas. C'est pas
là. Voilà, mettons, je les achète, je fais quoi avec ?
Mais tu fais ce que tu veux.
Tu peux faire.
Mais tu fais ce que tu veux.
Mais non, t'as dit qu'on peut pas.
Non, c'est ah, pas mais non, mais, faudrait quand même sacrément un coup de bol. Que tu tombes exactement sur les proportions, la façon de faire, machin, ça va. Tu fais ce que tu veux, tu les entreposes, tu dis voilà, les samémanim ktoret. J'imagine que j'ai entendu dire que tu avais une main qui savait peindre. Alors peut-être que tu vas avoir une inspiration et que tu vas peindre le Kohen Gadol qui fait la ktoret Bekodesh HaKodashim. Et tu vas faire ton tableau, et une fois qu'il sera terminé, bah, en dessous de ton tableau, tu mettras les 11 samémanim ktoret.
Je vais les acheter.
Tu vois ? Désolé hein, pour le balagan que ça va faire dans le salon. Des kitsour, la ktoret.
C'est tellement grand que.
Ben, c'est ça. La ketoret, ça sert à quoi ? On avait dit, lorsqu'on avait parlé de cela, la ketoret parle du Ham Israël dans son ensemble. Puisque dans la ktoret, il y a Hadassar Samemanim, mais il y en a un, la chelbena, qui sent mauvais. C'est-à-dire, la chelbena, je crois qu'on traduit par galbadium en français. Ça sent mauvais. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous a mis un truc qui sent pas bon ? Nous disent nos sages, en l'occurrence le tour, que Zekeneged Areshaim. Alors tu pourrais penser qu'il faut peut-être les écarter. Sauf que nous dit la Mishnah, Veim Chissa Arechad Mikol Samamena, Chayav Mita. T'as pas le droit d'en enlever un des Samemanim de la Ktoret. T'aurais pu penser que le Chelbena, tu veux l'enlever. Non, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde parce que non seulement lorsqu'il est mis avec les autres, on ne sent pas sa mauvaise odeur, mais au contraire, il donne encore plus une bonne odeur au reste. Histoire de mettre une pincée de sel quand on fait un dessert sucré. Ça va relever le goût. C'est-à-dire, le Rav Kook, dans le livre Orot Atechia, dans le chapitre, enfin la Pisca Piska Mem Hei, si je ne me trompe pas, dans la Piska 45, il dit, de la même façon que pour faire du vin, on a besoin de shmarim, c'est-à-dire des... comment on dit en français ? Non, pas les conservateurs, les...
Levure.
Ouais, la levure, enfin, le truc tout pourri qui sert à faire le vin. Yefchar la olam bli rechaim. À rechaim, ils ont aussi une place dans le monde parce qu'ils permettent de faire des choses que les autres, ils font pas. Et si tu arrives à les faire rentrer avec toi, alors ça donne une dimension encore meilleure.
Et de vider son plus rechaim.
Et à ce moment-là, tu vas pouvoir justement leur faire tchouma. Parce que tu leur montres qu'ils ont une place, qu'ils ont quelque chose à faire. Ah, t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Ça va. Il y a un processus qui se met en place. D'accord ? Altidagi. Il y a ce qu'il faut. Et puis, si à un moment donné, on arrive à tous être des tzadikim, je pense que Dieu, il s'arrangera. Ça va. Vaktoret asher ta'aseh ban kunta lo ta'asu lachem kodesh tiye lecha la'ashem ish asher ya'aseh kamo ala ariach ba'a venichat me'amav. Pareil, celui qui ferait ça pour lui, eh bien, nichat me'amav. Oui.
Mais là, s'il fait ça, par contre...
Bah, parce qu'il fait ça pour lui. Je t'explique. La Ketoret...
Alors là, il n'est plus dans les 11.
Alors, la Ketoret, on a dit c'est 11. Et j'ai dit que ça représente le peuple juif. A priori, pour représenter le peuple juif, je t'aurais dit, quel est le chiffre qui représente le plus ?
12.
12. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi on a 11 ? Eh bien, vous vous rappelez du fameux chant de Pessah, de Echad Miyodea ? Ouais. À un moment donné, on passe de Asara d'Ibraya, des 10 commandements, à Shtemassar Shemassar Shiftaya, les 12 tribus, et au milieu, on te dit Achadassar Korvaya, les 11 étoiles. Étoiles de quoi ? Du rêve de Yosef. Maintenant, ces 11 étoiles du rêve de Yosef, ça fait référence aux 11 frères de Yosef. Et en quoi c'est un truc tellement important dans le judaïsme ? Eh bien, parce qu'au moment où Yosef a raconté son rêve à ses frères, ses frères étaient évidemment pas très très contents, sauf un, Réhouven. Pourquoi ? Parce qu'il venait de fauter avec Bila, et il pensait qu'à cause de sa faute, il faisait plus partie du klal. Et il entend qu'il y a 11 étoiles, donc ça veut dire qu'il en fait partie. Et de là, il comprend que bien qu'il ait fauté, il fait Adaïn, toujours partie du peuple d'Israël. C'est-à-dire, donc, il y a cette dimension de, ben, comment dire, de simcha, d'appartenance au peuple juif, quoi qu'il arrive. Mais quelqu'un qui prendrait ces 11 samémanim, qui sont donc la définition de l'appartenance au klal, et qui en fait quelque chose pour son kiff personnel, ben il s'exclut tout seul, en fait. Il a décidé que lui valait mieux que le klal. Donc, venir cheta, nefesh haïm et amen. D'accord ?
Donc, il y a des cas, donc le retranchement, il est provisoire.
Tant qu'il ne fait pas de chouva. Ah oui, s'il fait tchouva, il n'y a plus de carrette.
Okay.
Il n'est pas obligé de faire tchouva, il fait ce qu'il veut.
Mais... Oui, non, oui. Mais là,
il y a toujours, bien sûr. Iné. Yof. Et maintenant, on peut rentrer dans le chapitre 31. Et là, on rentre sur, j'ai envie de dire, un des concepts les plus profonds du judaïsme. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo. Ré. קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ועמלה אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ודעת ובכל מלאכה לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה ואני הנה נתתי איתו את העולייו בן אחי שמח למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועשו את כל אשר ציוויתיך. On nous dit ici que Dieu a choisi Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda. Alors c'est qui ce monsieur ? C'est le petit-fils de
Myriam.
Han Hur, le mari de Myriam. Donc Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda. Pourquoi c'est lui qui a été choisi ? Mais avant de répondre à cette question-là, j'en pose une autre. Pourquoi on lui a donné comme Benzoug, comme celui qui va l'aider dans sa melacha, Aoliav ben Achisamar le Maté Dan ? Eh bien, nous disent nos sages, parce que pour construire le Mishkan, qui doit être l'endroit où Am Israël il va rencontrer Dieu, eh bien, tu as besoin de Yehuda, chez Oua Meoulé, chez Bashvatim, et tu as besoin de Dan, chez Oua Yaroud, Minashvatim. C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grand, plus grande tribu plus élevée que celle de Yehuda, et il n'y a pas de tribu plus problématique que celle de Dan. Et donc, on a besoin des deux extrêmes pour justement faire rentrer à l'intérieur tout le Am Israël. Eh bien, nous dit que nous dit la Torah que le chevet Dan, c'est eux qui fermaient la marche. Et donc là, la Torah nous dit qu'ils fermaient la marche. Nos sages nous disent que Anan aya polet otam bachutz. C'est-à-dire que fallait faire très attention quand tu étais membre de la tribu de Dan parce que la nuée qui avançait avait tendance à les faire sortir. C'est-à-dire que les Danim sont des borderliners.
C'est la voiture balai.
Mais si tu veux, c'est qui le grand personnage danois, je sais pas si on dit comme ça, qu'on connaît de la tribu de Dan? Hein?
Celui qui a coupé la tête à Esav, non?
Alors, il y a Hushin, tu as raison. Hushin ben Dan, tu as tout à fait raison. Mais je pense pas que ce soit lui le plus connu. Il y a un grand, grand Danien. Comment on dit? Eh oui, Shimshon. Shimshon à Gibor. Et Meshevet Dan. Ah, Shimshon. Shimshon, il gère tous les problèmes tout seul. Il est complètement anti-autorité, anti-centralité. Il gère tout seul. Yehuda, c'est la centralité par excellence. Donc on a ici deux personnages qui sont complètement à l'opposé. D'ailleurs, finalement, bien que ce n'était pas ce qui devait être dans la division des différentes tribus, mais au final, la terre d'Israël sera entourée par Yehuda au sud et Dan au nord. Bien que ce ne soit pas à la base d'origine, la Nahala, le territoire de Dan, finalement, les Dan ils vont monter au nord. Et on dira que la terre d'Israël, c'est Midan ad Be'er-Sheva. C'est-à-dire que même topographiquement parlant, géographiquement parlant, Dan et Yehuda englobent tout le peuple juif. C'est ça. Donc il y a ici une dimension très particulière. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Betzalel Dafka? Tu comprends pourquoi il lui a donné aussi un membre de la tribu de Dan? Mais pourquoi Dafka Betzalel? Nous disent nos sages dans le Talmud, Yodea Aya Betzalel לצרף אותיות שנבנו בהם שמיים וארץ. בצלאל était capable de réunir les lettres qui ont créé le monde.
Hachem lui a donné
roi Chochma ou Dvouna. Ça ne veut pas dire que, après c'est comme tout, Hachem il te donne un code génétique qui va te permettre de mesurer 2m10. Est-ce que tu vas devenir basketteur ou pas? C'est ton problème. C'est-à-dire que Betzalel avait sûrement des prédispositions. Après, c'est lui qui a développé ça comme un grand. C'est-à-dire, maintenant, ça veut dire quoi cette histoire de l'Etzaref Otiyot? Vas-y. Il semblerait que donc, pour pouvoir construire le Mishkan, il faut être capable de reconstruire le monde. Parce que le Mishkan, c'est un microcosme du monde entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on relie des lettres et c'est ça qui crée des choses? Il faut bien comprendre une chose. Le monde a été créé par des lettres, puisqu'il a été créé par 10 paroles, et les paroles, ce sont des mots qui sont créés par des lettres. La lettre, comment est-ce qu'on dit une lettre en hébreu? Ot. Mazé ot. Ot, c'est pas un signe. Ot, c'est l'expression d'une volonté. Ot vient du terme leitavot, c'est-à-dire se réaliser. Ot, c'est une volonté qui s'est réalisé. Si tu enlèves le tav au mot hot, qu'est-ce que tu as? Non. Aleph, vav. Ça fait O. O, c'est le mot qui désigne une volonté pas claire. Ou ça. Ok? Mais quand tu réalises la chose, il n'y a plus de doute. Donc c'est hot. Yesh it avut. C'est-à-dire que ma volonté s'est exprimée. D'accord? Maintenant, hein?
Les avot s'est formé. Les avot s'est formé.
Oui.
En hébreu moderne.
Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous dites quelque chose formé de lettres, eh bien vous exprimez une volonté. D'accord? Par exemple, la volonté, enfin le mot shulchan exprime la volonté de la lettre shin, de la lettre vav, là, et ainsi de suite. Mais en fait, chaque lettre, elle aussi, elle est l'expression d'une volonté. Parce que par exemple, le shin exprime la volonté du shin, du yud et du nun. Parce que pour faire la lettre shin, c'est shin, yud, nun. Donc il y a à chaque fois des expressions de volonté. Et donc, lorsque tu es capable de voir quel est le projet, alors tu peux prendre cette lettre-là avec cette lettre-là et créer le monde. Et donc créer le Mishkan. C'est ça que va faire Betzalel ben Uri ben Hur Lematé Yehuda. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec tout ça? Alors, pour pouvoir créer tout ça, il faut être rempli de Ruach Elohim, Bechochma, ou Bitvuna, ou Bedat. Mazé Chochma. Intelligence. C'est-à-dire la rencontre avec un contenu. Chochma, ça veut dire la rencontre avec un contenu extérieur. Waya Chacham Mikol Adam. C'est-à-dire qu'il a rencontré plus de contenu que n'importe qui. C'est-à-dire, après, ce contenu que j'ai reçu, il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je comprends, est-ce que je comprends pas. Et ça, c'est Tvuna. Tvuna Milashon Bina. C'est-à-dire le discernement. Et après, je date que la chose fait partie intégrante de moi. D'accord? Donc, Bechokhma, Bitvuna, ou Bidat. La Bina. Est-ce qu'elle est plus présente chez les hommes ou chez les femmes?
Chez les femmes. Non, c'est ce qu'on dit. Hein. Après, je sais pas,
c'est plus pratique, quoi. Un plus pratique? C'est pas une question de pratique.
Non.
D'un côté, on nous dit Bina Yetera dans le Talmud, Bina Yetera Natan Baisha. D'un autre côté, Nashim Da'atan Kala. Que leur Da'at est plus simple que celle des hommes. Donc il y a plus de bina chez les femmes, il y a plus de dat chez les hommes. Alors je ne sais pas si c'est vrai au niveau biologique, ce n'est pas le débat, on s'en fiche. Il y a peut-être des femmes chez qui la bina elle n'est pas du tout là, ils sont très dat, il y a peut-être des hommes chez qui c'est l'inverse. Mais de manière conceptuelle, la bina ressemble, c'est-à-dire le discernement, la capacité de mettre les choses dans des cases, eh bien c'est quelque chose qui est plus propice au côté féminin, qui peut y avoir chez l'homme aussi, mais chez la femme également. C'est-à-dire, le côté féminin, c'est cette capacité qu'on a à analyser les choses. Alors que le côté masculin, il a la capacité de s'approprier les choses. Alors, ça peut être chez l'homme, monsieur, et chez la femme, madame. C'est l'homme chané. Est-ce que la chorma, elle a plus de poids chez l'homme ou chez la femme, chez le masculin, chez le féminin? Non. Il y a autant de possibilités d'être un homme chacham dans la Torah que d'être une femme chacham. Donc, puisqu'il y a plus de bina chez les femmes et plus de dat chez les hommes, ben, il faut se marier. C'est dracha qu'on peut faire dans des shivah brachot. Prochaine fois que vous êtes invité. Et donc voilà. Vani natati oto et aliyav ben achisam arimate dan obelev kol chacham lev natati chokma. ועשו את כל אשר ציוויתיך, את אוהל מועד, ואת ארון העדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן, ואת כלה, ואת המנורה, הטהורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת קנו. Donc tous les ustensiles du משכן. ואת בגדי השרד, ואת בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוויתיך יעשו. בסדר? מה? לשמן משחת קודש. בסדר, כי משה אלא דוני לאינסטרוקציון הבצלאל כמו כן. נכון, נכון. זה לוי כי סופרוויז. מזה בצלאל כי אג'י. סטיוב, משה זה לארכיטקט. Et Betzalel, c'est le Kablan. Okay. C'est-à-dire okay. Moshe, il est...
Le Kablan, il, quand même, il connaît...
C'est un cablan.
C'est
un cablan, cablan. Hein. Ah, si tu avais eu Bezalel pour la Sina, je peux te dire que ça serait déjà fini depuis longtemps. C'est vrai. Mais Naron, Moshe, il voit les choses de là-haut. C'est vrai. Et Bezalel, il est capable de les tsaref au tiot. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que Moshe, il est moins grand que Bezalel.
Non, non, c'est une des rôles différents.
Ça veut dire que Moshe, il est trop grand pour la construction technique de mettre du plâtre et de mettre du béton, machin. C'est katan à l'âme. C'est vrai. Ok. Vayomer Hashem, le Moshe, les morts. On a fini le Mishkan, ça y est. C'est fini. Tout l'ordre de la création du Mishkan est terminé. Psst, c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Vayomer Hashem, le Moshe, les morts. Ve'ata, d'aber el bene Israël, les morts. Ach et shabbetotai tishmoru. כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני השם מקדישכם ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה.
כוח
évidemment, avant de répondre à pourquoi il y a Ach, viens, pourquoi est-ce que maintenant on parle du Shabbat ? Dire, c'est très sympa le Shabbat, mais quel rapport d'en parler maintenant ? Bien parce qu'on vient de te parler du Mishkan, donc il faut te parler du Shabbat. Pourquoi ? Parce que le Mishkan et le Shabbat, c'est auto dava. Lama,
c'est
auto dava.
C'est parce que c'est la même dimension.
Ah non, c'est pas la même dimension.
C'est le 8,
mais sauf que le Shabbat, c'est dans le temps, et le Mikdash, le Mishkan, c'est dans l'espace. C'est-à-dire que le Mishkan s'appelle Oel Moed, la tente de rendez-vous, de rencontre. Shabbat est la première dans la liste des Moadei Hashem, des temps de rendez-vous, de rencontre. Donc, le Shabbat et le Mikdash, Oto Davar, c'est là où on rencontre Akadosh Baruch Hu. Ah, donc tu aurais pu penser que le Shabbat... Eh bien, on peut transgresser Shabbat pour faire le Mishkan.
Ben oui, parce qu'il dit Ach.
Eh bien, non, justement. Ben non, justement. Ach et Shabtotai tishmoru.
Ah oui.
C'est-à-dire que non, on ne pourra pas transgresser Shabbat pour faire le Mishkan. Dans le Mishkan, on transgresse Shabbat. Mais pour faire le Mishkan, on ne transgresse pas Shabbat. C'est-à-dire ? Parce que justement, ils sont sur le même plan. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. D'accord ?
On fait du feu et tout, quoi, Shabbat.
C'est... Hein ?
Dans le Mishkan, on fait du feu, Shabbat.
Non, dans la Avoda.
Dans la
Avoda. Mais la Avoda, c'est l'union de tout. Mais pour construire le Mishkan, tu ne peux pas transgresser Shabbat. D'accord ? Parce que ce que représente le Mishkan dans l'espace représente Shabbat dans le temps. C'est-à-dire ? Ushmartem et Shabbat, qui kodesh shilachem, mechalelea mot yumat. Vas-y, mot yumat. Ouais, deux fois.
Mourir, tu
mourras. Alors, à chaque fois qu'il y a marqué Mot Yumat, on l'a déjà vu dans la paracha de Mishpatim, Mot Yumat, ça veut dire Bebet Din.
Ah,
Bet Din.
Bet Din, ça veut dire de terrestre ?
Oui.
Okay.
Dès qu'il y a marqué Mot Yumat, ça veut dire que c'est allié des Bet Din. Lorsqu'il y a marqué juste Mot ou Yamut, Zebide Shamay. D'accord ? Donc, si c'est Mot Yumat, c'est allié des Bet Din. Est-ce que le Bet Din, ça lui arrive souvent de tuer des Mechalel et Shabbat ?
Non. Une fois, celui qui a coupé le bout, c'est
ça. Ah, sauf que c'est pas allé des Bet Din. Celui qui a coupé le bois, il a été massacré, tué, lapidé, contre la halakha. Puisque pour pouvoir tuer quelqu'un à l'Pi Bet Din, il faut qu'il y ait deux témoins, qu'il ait vu faire et qu'il ait prévenu avant que si jamais il faisait ça, eh bien, il serait tué et voilà comment il sera tué. Et il doit dire, oui, je sais et je le fais quand même. Sauf que l'histoire du Bekoshesh et Tzim, Moshe, il y a marqué dans la Torah qu'il ne sait pas ce qu'on doit faire avec lui. Et c'est Dieu qui lui dit, tu le lapides. Donc ça veut dire que s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas pu le prévenir. Donc c'est l'homme inadine. Le Bet Din, il n'a jamais tué quelqu'un qui était Mechalel Shabbat, al pia halakha. Il y a ce cas-là qui est relaté dans la Torah, il y a un autre cas qui est amené dans le Talmud, qu'on a tué un homme qui faisait du cheval Shabbat, ce qui est Vadaï, pas le pia halakha, parce que faire du cheval Shabbat, c'est assur mais divrei chachamim, et on ne fait pas de Rav Mita pour un histoire de Rabbanan. Mais à chaque fois, c'est pour faire un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, quand elle te dit mot yumat, elle sait que ça ne va pas arriver. C'est-à-dire que la peine de mort, elle est existante dans le judaïsme, mais elle n'est jamais appliquée. Alors pourquoi on nous dit ? Non, parce que même dans les cas extrêmes, ça ne sera pas appliqué.
Pour montrer quand la gravité.
Voilà, c'est pour nous expliquer la gravité de la chose. Après, est-ce qu'on va te tuer ? Non, on ne va pas te tuer. Mais sache à quel point c'est grave, tu aurais dû mourir. C'est-à-dire ? Donc Shabbat, c'est Khashoggi. Shabbat Zechashu. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on a tendance à dire bon, c'est pas Shabbat Zechashu, mais autre. C'est-à-dire? Donc, je dis pas que maintenant il faut aller attaquer toute personne qui transgresse Shabbat, Chas Veshalom, parce que bien au contraire, c'est pas ça qui va lui faire revenir à Shabbat. Il faut justement lui montrer à quel point Shabbat c'est un kiff. C'est-à-dire, comment on fait faire tchouva à quelqu'un qui fait pas Shabbat? Première étape, tu l'invites à manger.
Voilà.
Il va venir en voiture.
Pas grave.
Non. Tout le temps où il sera chez toi, il ne transgressera pas Shabbat. Donc ça vaut le coup. Il faut lui donner évidemment la possibilité de rester chez toi. Tu lui dis, écoute, moi, si tu veux, tu restes avec plaisir, en sachant qu'il ne voudra pas rester. Et toi, tu essayes. Hine, sheshet yamim yase melacha. וביום השביעי שבת שבתון קודש להשם כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. Et après il y a un verset, je ne sais pas si vous connaissez, ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. Donc, nous devons faire le Shabbat. Pourquoi ? Parce que nous voulons acquérir la dimension de Hakadosh Baruch Hu lorsqu'il a arrêté de créer. Ah ouais, ça veut dire qu'on veut se rattacher maintenant à la Kedusha de la création. Seulement, qui a fait la création ? Et est-ce que quelqu'un l'a aidé ? Non. Donc ça veut dire que c'est lui tout seul qui a bossé. Résultat des courses, si moi je veux atteindre Kedushat HaShabbat, je dois cesser d'être. C'est-à-dire, je dois revenir à un état où en fait j'étais pas là. Donc je dois cesser d'exister. Comment on fait pour arrêter d'exister ? Eh bien, on ne fait pas les 39 Melachot de Shabbat.
C'est tout.
Ah, c'est déjà pas mal. Puisque les 39 Melachot de Shabbat font que je n'ai plus de réalité dans ce monde. C'est quoi les 39 travaux de Shabbat ? Vous les connaissez par cœur, bien sûr.
Si, oui.
Hein, d'accord ?
Par cœur, non, mais on les connaît.
Comment on peut les diviser, les 39 travaux de Shabbat ? On peut les diviser en 11, 11, 7 et 10. Il y a 11 melachot qui sont tout ce qu'on doit faire de A à Z pour sortir du pain. Ensuite, on a 11 melachot qui sont tout ce qu'on doit faire pour sortir de A à Z un morceau de vêtement, de tissu. Ensuite, on a toutes les melachot qu'on doit faire de A à Z, 7, pour sortir un vêtement fort, c'est-à-dire un morceau de cuir. Et après, on en a encore 10.
Pourquoi les 7 morceaux de cuir ne sont pas avec les autres ?
Bah, parce que tu n'es pas obligé que tous tes vêtements soient en cuir.
C'est pas tissé, il n'y a pas de tissage.
Parce qu'encore une fois, les vêtements, c'est pas forcément du cuir.
Oui.
C'est quoi les vêtements en cuir à l'époque ? C'est la veste ?
C'est le blouson.
C'est le blouson en cuir ? Non.
C'est quoi, c'est...
Qu'est-ce qu'on fait avec du cuir ?
Des tentes ?
Non.
Des titites ?
Des outres ?
Des titites en cuir ?
Non, pas des titites, les...
Des outres ?
Les tfilines ? Les tfilines, c'est... D'abord, c'est pas... on fait pas en cuir. On fait avec de la peau d'animal, mais c'est pas devenu du cuir lanières, quand on a fait ça.
Les lanières.
Ah, les lanières.
Oui.
C'est-à-dire, on fait, les amis, on fait des chaussures.
Tout simplement.
C'est pas shoot. C'est-à-dire que l'homme, il peut pas se balader dans ce monde simplement avec un vêtement en tissu. Il a besoin aussi de se déplacer dans ce monde. Il se déplace avec des chaussures. Donc, tu as le pain et les vêtements. Vêtements et chaussures. C'est la base. Nous dit Yaakov Avinu, lorsqu'il parle à Dieu et qu'il lui dit s'il te plaît, aide-moi, il lui dit Ve'im atanoten li lechem lechol ve beged li l'bosh, alors tu seras pour moi mon Dieu. Et oui, c'est la base de l'être humain. Lechem lechol ou beged li l'bosh. Du pain et un vêtement. Après, tu veux aussi avancer, tu as besoin de chaussures en cuir. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, anilo kayam, je ne peux pas m'exprimer dans ce monde. Si j'ai rien à manger, j'ai rien à me mettre. Animalar, anilopo. Et après, on a encore 10 melachot qui sont keneged tous les éléments de ce monde. C'est-à-dire qu'on a deux melachot qui sont par rapport à l'eau, deux par rapport au feu, deux par rapport à l'air et deux par rapport à la terre. Et on a deux dernières melachot qui sont par rapport à la création du monde, qui s'appellent Maké Bepatish ve Otsaha Mirshut Lirshut. Maké Bepatish, c'est finir un ustensile. Okay? Comme Dieu il a fait quand il a créé le monde. Et Otsaha Mirshut, c'est sortir un objet d'un domaine à l'autre, c'est ce que Dieu il a fait en sortant le monde de lui. C'est-à-dire? Donc en fait, toutes les melachot, j'arrête de les faire parce qu'elles sont ce pourquoi Dieu il a créé le monde. Donc j'arrête de les faire, j'arrête quelque part de me mouvoir dans ce monde. Je fais quoi pendant Shabbat ? Torah. Je fais Torah pendant Shabbat. Torah zelomina olamazé. C'est-à-dire ? Donc je suis détaché de ce monde complètement pour acquérir Kdushat à Shabbat. J'ai rien le droit de faire. Rien fait. Puis après, il y a aussi des Kdushot différentes qui sont la Kdusha de Yom Tov. Elles sont moins divines, mais elles sont plus grandes. Parce que à Yom Tov, je ne suis pas obligé de tout arrêter. Je peux faire ce qu'on appelle Melechet Ochel Nefesh. C'est-à-dire les bases de l'existence de l'homme. Pourquoi ? Parce que les Yom Tov sont souvenus à la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, j'ai participé un peu. Je suis sorti. Donc j'ai le droit de faire un peu. La base de l'existence. Ziyoter Tov Mishabbat. C'est moins divin, mais c'est plus grand. Et puis après, on a la Kdusha de Purim. Ah, la Kdusha de Purim, c'est qui a fait ? C'est moi. Enfin, c'est Mordechai et Esther. Mais c'est Dieu aussi, mais il s'est caché. Mais c'est moi, mais c'est lui, mais c'est dans le Tanakh quand même. Donc on a le droit de faire des choses à Purim, mais toutes les avodot qui sont netzar, on ne les fait pas. On ne fait pas de maison et on ne plante pas d'arbres à Purim. Parce que c'est en Chutz La'aretz. Donc tu ne vas pas faire une avoda éternelle Bechutz La'aretz. Puis après, il y a Hanouka. Ah, Hanouka, c'est nous qui avons fait 90%. Rachmonaïm, la guerre. Dieu, il s'est gardé un petit 10%. La miracle de la petite fiole d'huile et tout. Donc à Hanouka, on peut tout faire. On n'a pas obligé d'annuler les melachot. Sauf qu'on a l'habitude, pendant que les nérotes, elles brûlent, de ne pas faire. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Kdusha de Yom HaAtzmaut, où c'est 100% Dieu qui a fait et 100% nous qui avons fait. Et donc, toutes les melachot sont permises parce que pour atteindre cette Kedusha-là, au contraire, tu dois faire. C'est-à-dire ? Et donc, on peut dire que Yom HaAtzmaut, la Kedusha, la sainteté, a atteint sa Atzmaut, a atteint son indépendance. Et donc ici, quand on ouvre le Mishkan, on a besoin de te parler de Shabbat. Parce que tu dois comprendre que la rencontre que tu vas avoir avec Dieu, toi, Am Israël, elle a besoin de ces deux dimensions, on avait déjà beaucoup parlé, la dimension de l'espace et la dimension du temps. Ben, c'est bien ? Yofi ! Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?
Eh bien, alors, ça veut dire que la dimension de Yom HaAtzmaut, enfin, d'après ce que je ressens, elle a l'air plus grande que le Shabbat.
Nachon ?
Oui.
Nachon ?
Ça ne déplace pas un peu le Shabbat.
Pourquoi ? Il y a quelque chose qui est grand et il y a quelque chose qui est anak.
Je pensais que ça me perturbe parce que pour moi.
Le Shabbat, il est complètement divin. Qu'est-ce qui est plus grand, dis-moi ? Regarde, deux secondes. Qu'est-ce qui est plus grand ? Là, on va commencer à aborder ça très, très succinctement. Qu'est-ce qui est plus grand ? Les premières louchot ou les secondes ?
Première,
en principe. A priori, les premières, on te dit dans le Midrash qu'elles étaient complètement miraculeuses, on voyait à travers, ça tenait tout seul les lettres, machin, la folie. Alors que les secondes, il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, les secondes sont bien meilleures que les premières. Parce que les premières sont complètement divines, alors que les secondes, il y a une participation de Moshe, puisque Dieu lui dit, fais-toi les tables, et moi j'écris dessus. Et donc, il y a une participation de l'homme, ce qui fait qu'elles sont évidemment moins divines, mais elles sont plus grandes. Parce que le but de la création, c'est pas d'être absent, c'est de participer. C'est-à-dire Veiten el Veiten sera el Moshe que chaloto le daber ito be'ar Sinai. Donc tout ça, ça se passe où? On vient de voir qu'en fait tout ça, ça se passait où? Be'ar Sinai. Dieu, il a donné les plans, tout ça à Moshe, et une fois qu'il a terminé de lui parler, Veiten el Moshe que chaloto le daber ito be'ar Sinai, shene luchot ha'edut, luchot even ketuvim be'etzba Elohim. Donc voilà, Dieu a donné à Moshe les luchot.
Est-ce qu'il n'y a pas le Rambam qui est en train de hurler quand il voit Etzba Elohim?
Non, 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 parce que le Rambam il sait qu'il s'agit d'un anthropomorphisme. C'est-à-dire, bien sûr qu'il n'y a pas de main. Par contre, le Midrash, il aime bien. Et il dit, ok, bah alors comment ça s'est passé concrètement? Il lui a donné. Il a chopé quoi? Il a tout. Ils se sont touchés les mains, ils ne se sont pas touchés les mains. Disons que ça, c'est... l'état. Dieu, il a dit, hey, Moshe, tiens, attrape. Alors, il fait quoi? Il lui a lancé ou il lui a donné? Bah, il t'aime. Il lui a donné. La Gemara, elle va répondre à une question que pose le Midrash. Le Midrash, il dit, attends, il lui a donné. Quelle taille faisaient les louchot? 6 tfachim. Tefar, c'est à peu près 9 cm. Site Farim à peu près 40 cm. Ah non, c'est pas très grand. Bah, 40 cm. C'est ça. Et le Midrash nous dit que Dieu il tenait Tfachim, il tenait 2 Tfachim, et Moshe il tenait 2 Tfachim aussi. Et donc il y avait 2 Tfachim Bahemtsa qui étaient libres, personne ne les tenait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est génial. Parce que donc, ça veut dire que on est tous les deux en contact avec tout. Parce que d'après la Gemara dans Maseret Baba Metzia, Shnaim Ochazim Betalit. S'il y a 2 personnes qui tiennent un talit, qu'est-ce qu'on fait? Ze Omer Kula Sheli, Ze Omer Kula Sheli. Rappelle? Non? En général, c'est une des Gemarot qu'on enseigne en premier aux enfants. Parce que pourquoi commencer par un truc simple si on peut commencer par un truc compliqué? Donc on te dit, il y a 2 qui tiennent un talit. Lui, il dit c'est à moi. L'autre, il dit c'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Yachaloku. On le coupe au milieu. Non, on ne coupe pas au milieu en fait. Là où moi je tiens, tout ce qui est de ce que là je tiens est derrière, c'est chez lui, il n'y a pas de débat. Tout ce que l'autre il tient est derrière, c'est à lui, il n'y a pas de débat. C'est l'espace où on ne tient pas qu'on va couper en deux. Si on me dit que Dieu, il tient 3 et Moshe, il tient 3, on coupe et il n'y a plus rien qui nous connecte. Le fait qu'il tienne 2 et lui 2, et donc il y a 2 qu'on doit se partager, ça veut dire qu'il doit y avoir le contact entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Donc Akadosh Baruch Hu donne les louchot à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a donné les louchot à Moshe? Ça veut dire quoi? Le moment où Moshe tient avec Dieu les tables. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire qu'il lui donne une partie du divin à faire descendre.
C'est-à-dire que...
Non, à faire des voiles.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, le dévoilement divin, il n'est plus dans le ciel. Ça y est, l'homme, il a un contact avec le dévoilement divin. Et donc, ça veut dire que qui va gagner? Les mains de Dieu ou les mains de Moshe? Ben non, au final, c'est Moshe qui va prendre les tables.
Oui.
Parce que Dieu, il veut lui reprendre.
Il veut lui reprendre?
Ben oui, parce qu'il y a une histoire de veau d'or, je ne sais pas si tu connais, ça va venir. Mais, Vegavrou Moshe, Yadav Shel Moshe Sera. Les mains de Moshe ont vaincu les mains de Dieu. C'est ce qu'on dit dans le dernier verset de la Torah. Où l'Echol Ayad Achazaka Asher Asa Moshe. Vas-y, Ayad Achazaka. La forte main de Moshe, c'est qu'il a réussi à choper les louchot. Parce qu'il faut bien comprendre que les louchot, c'est la Torah que Dieu donne au Ham Israël. Donc puisqu'elles sont censées être données, c'est normal que le receveur, c'est lui qui est plus fort. Mais comme on a dit, les louchot donnés à Moshe, lorsque Moshe les touche, ça veut dire que c'est le moment où le dévoilement divin n'est plus que dans les cieux, il est aussi Baolamazé. Il est Baolamazé, donc il est ressenti par Moshe, évidemment, parce qu'il touche les louchot, mais il est ressenti aussi par qui? Bah, par tout le monde. Bah, le monde entier. Il sent que maintenant, le dévoilement divin, il est là. Et le problème, c'est que Moshe, lui, il n'est pas là. Ce qui fait qu'en bas, on ressent que c'est le moment.
Comment Moshe est
là? Bah, il est dans la montagne.
Ah oui.
Donc, il n'est pas avec l'âme Israël. Et pourtant, l'âme Israël, il sent que maintenant, la présence divine, elle doit être là. Et ils ont raison. Mais Moshe n'est pas là.
Hachem, il sait bien tout ça.
Nachon.
Et pourquoi il a laissé...
Eh bien, ça veut dire qu'il semblerait...
Il fallait passer par là.
...que le veau d'or est une composante nécessaire du dévoilement divin. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est si grave que ça, le veau d'or? Eh bien, on verra la semaine prochaine. Oui. À Zagombo.
Et même pourquoi...